Bonjour. Quand on prépare une intervention orale devant une assemblée aussi impressionnante que celle-ci, comme Guy vient de le faire, et qu'on donne la parole à l'assemblée pour quelqu'un se lève et témoigne, et que personne ne se lève pour témoigner, on se dit, je suis très correct, on se dit zut, on se dit c'est raté. Eh bien, pas du tout, mon cher Guy. Parce que contrairement à mes habitudes, je vais commencer par rendre témoignage d'une petite tranche de ma vie. Donc, merci de m'avoir préparé le terrain. Il y a une cohérence formidable dans l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Voici donc que vient de sonner pour moi un temps étrange. Celui du départ à la retraite. Mes anciens collègues m'avaient dit « tu vas voir défiler toute ta vie ». L'expression est un peu excessive, mais il n'en reste pas moins vrai que de temps en temps, il y a des souvenirs qui refont surface. Mon entrée en sixième, le bac, et surtout, un changement d'orientation qui a chamboulé la donne. Mon entrée dans la très prestigieuse école d'art lyrique de l'Opéra de Paris. 3 années de formation intensive, passionnante, dans cette véritable machine à fabriquer ce qu'on appelait des solistes à l'international. Pendant les décennies qui ont suivi, je n'ai rien fait d'autre que courir de gare en aéroport, de ville en ville, de pays en pays, de théâtre en théâtre. Tout n'a été que course folle, rencontre et découverte. Bref, une vie d'artiste privilégié, immergé dans l'univers baroque du monde du spectacle. Lorsqu'en septembre 1980, j'arrivais à l'opéra, le sida n'avait pas encore commencé les ravages que l'on sait, et je découvrais alors un milieu qui menait une vie mais totalement débridée, désinhibée, sans tabou. Et je vous assure que cela faisait beaucoup, mais vraiment beaucoup trop, pour un petit provincial méthodiste. J'étais en état de choc, de sidération, devant des comportements honteux dont jusque-là j'ignorais jusqu'à l'existence. Cependant, je remarquais rapidement plusieurs choses. Seule une population à la marge menait avec fracas une vie de scandale. Mais comme cela se faisait de façon très tapageuse, on pouvait croire que la totalité du milieu artistique en faisait autant. C'était, et c'est toujours, absolument faux. J'observais aussi que le milieu du spectacle n'était rien moins qu'un désert, qu'un vaste désert au niveau missionnaire. C'était, et c'est toujours, absolument vrai. Troisième observation, ce milieu qui évolue sans interdit est loin d'être hostile à l'annonce du salut. Parler, oser témoigner de l'amour de Christ, non seulement n'attire pas de jugement ou de ricanement, mais au contraire, suscite une vraie curiosité, parfois même de l'intérêt, et génère une sorte de respect et de considération. Quatrième observation, pendant toutes mes premières semaines de vie parisienne, alors que complètement paumé, je cherchais du réconfort dans la lecture assidue de la parole de Dieu, il m'a été quasiment impossible de sortir, de m'extraire de la lecture du livre de Jonas. Un peu comme lui, peut-être, j'avais l'impression de débarquer à Ninive. Au printemps dernier, vous en souvenez sans doute, notre église a reçu la visite du pasteur Ratovo. Il est entre autres responsable de la CIM à Madagascar. Dans sa présentation, il a proposé quelques chiffres concernant cette société d'évangélisation. Elle couvre plus de 70 pays et déploie sur le terrain quelque chose comme 1500 personnes. Et en l'écoutant, je me suis posé la question suivante. Et en France, combien d'engagés dans le milieu du théâtre, du cinéma, de la télé, de l'opéra et du showbiz en général? Sans doute, beaucoup moins qu'il n'y a de doigts dans une main. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pendant plus de 30 ans, j'ai été amené à fréquenter au quotidien cette fameuse population à la marge dont nous parlions tout à l'heure. Elle constitue cette part de la société que nombre de nos églises considèrent comme le comble de l'abjection. Je vous invite à réfléchir ce matin, ensemble, sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'accueil, je dis bien de l'accueil parce que le sujet est très vaste, donc on va cibler sur l'accueil réservé aux pécheurs. Cela correspond à des questions que nous nous posons tous, mais que nous n'osons ni aborder, ni mentionner, tant le sujet est sensible, tabou, sulfureux. Eh bien, nous allons transgresser et sauter à pieds joints dans le bouillon. Comment moi, chrétien, chrétienne convaincue, dois-je me positionner vis-à-vis de l'accueil de personnes que tout dans mon éducation, ma morale et mon éthique condamne d'emblée, réprouve a priori? Et dans le prolongement, quel accueil mon Église réserve-t-elle à ces mêmes personnes? Mais au fait, de qui parle-t-on? Nous parlons de certains, de certaines corps de notre Église. Nous pouvons être amenés à croiser ou à côtoyer au boulot, dans notre voisinage, dans notre cercle de connaissances, jusque et y compris, peut-être, dans nos propres familles. Ces personnes que nous jugeons avec plus ou moins de réprobation ont peut-être connu la prostitution, le libertinage, à moins qu'il ne s'agisse d'homosexuels ou de tout autre cas de figure encore. Bref, les infréquentables. Nous développerons trois points à partir de divers textes de la parole de Dieu, après quoi nous essaierons dans un quatrième et dernier temps de mettre en lumière quelques éléments concrets nous concernant. Premier point, l'histoire de la femme adultère. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 3 à 11. Évangile de Jean 8, chapitre 3, verset 8, versets 3 à 11. Alors que les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, ils la placent au milieu et lui disent, en parlant à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Sur les 9 versets que dure ce récit, 7 sont consacrés à nous dire l'effervescence, l'agressivité et la haine des pharisiens. 7 versets pour nous raconter l'assourdissante vacuité humaine. Face à cela, 2 versets. 2 versets seulement, mais qui disent l'essentiel, et cet essentiel est introduit au verset 10 par le mot « alors ». Depuis le début de notre histoire, cette pécheresse est trimballée comme un vulgaire paquet. Pas un instant les scribes et les pharisiens ne la considèrent autrement que comme méritant la lapidation. Or voilà que Jésus se redresse pour la regarder. Il commence par poser son regard sur elle, c'est-à-dire qu'il la considère en tant qu'être humain, que femme, que créature de Dieu. Puis, il lui donne la parole. Verset 11, Jésus dit, « Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Elle était jusque-là restée muette comme une brebis devant ce qui l'attonde. Un silence qui dit ici l'autocondamnation comme préalable. Dans sa résignation honteuse, elle ne cherche même pas à grappiller quelques circonstances atténuantes pour tenter de se disculper. Et alors là arrive une phrase renversante. Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Alors on s'interroge et on se dit, « Mais enfin, si le Fils de Dieu ne juge pas et ne condamne pas, mais qui est-il donc ? » Il est celui que les vociférations hystériques n'impactent pas. S'il fallait dire ça sous forme d'une formule, on peut dire que Jésus se moque de l'opinion. Il est celui qui, d'un mot, a le pouvoir de désintégrer les postures monolithiques. Il est celui qui n'inonde pas de longs discours, mais qui privilégie un tête-à-tête apaisé. Verset 9, il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Il est celui qui regarde son interlocuteur. Il est celui qui donne la parole. Il est celui qui écoute la réponse. Celui qui en tient compte. Il est enfin celui qui ne condamne pas. Quel accueil, mes amis! Quel accueil pour un coupable! Quelques mots hors de notre sujet ce matin. Jésus dit, va et ne pêche plus. Ce va, ça veut dire, n'aie pas peur. Retourne dans ton quotidien, retrouve ta place dans ton travail, ta famille. Mais dans le cadre de cette continuité retrouvée, ne pêche pas. Ces trois mots sont au cœur même du plan du salut que nous offre le Seigneur. Et ces trois mots constituent la condition sine qua non de la grâce et méritent à eux seuls une prédication tout entière. Refermons la parenthèse pour en revenir à notre sujet, l'accueil. Une dernière observation avant de passer au point suivant. Nous l'avons remarqué plus haut, tout ne commence qu'à partir du mot « alors ». La relation personnelle au Christ ne voit sa profondeur, son épaisseur, sa densité s'établir qu'en l'absence de témoins. C'est un tête-à-tête à cœur ouvert, confidentiel, intime, secret. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il y aura deux sous-titres au chapitre suivant. Grand A, l'apôtre Paul et les Romains. Grand B, l'apôtre Pierre et les non-juifs. L'apôtre Paul et les Romains. Tout le monde le sait, les Romains étaient connus pour avoir des mœurs corrompues. Or, beaucoup de choses à ce propos ne peuvent figurer sur les manuels d'histoire de nos enfants. Et sans vouloir outrepasser les limites de la décence, qu'il me soit permis ici de citer un exemple. À cette époque, l'esclavage était un fait social d'une totale banalité. Un esclave n'était rien moins qu'une bête de somme, qu'un outil, ou, excusez l'anachronisme, qu'un appareil électroménager. Mais pas que. Les esclaves étaient aussi très communément utilisés comme sex toys, comme jouets sexuels. Eh bien, vous savez quoi ? L'apôtre Paul n'ignorait rien de ces pratiques. Relisez donc à ce propos le premier chapitre de son épître adressé à ces mêmes Romains, et vous verrez, dès le verset 24, qu'il en savait long sur leurs coutumes. Paul donc aurait pu adopter une attitude d'autoprotection en refusant d'aller se souiller à leur contact. Eh bien non! Il dit au chapitre 15 et verset 20, « J'ai mis un point d'honneur à annoncer la bonne nouvelle là où Christ n'avait pas été nommé. » Et plus loin, il ajoute, « Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. » L'appel de Dieu est irrévocable. Enfin, il dit au verset 14, et comment invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? Comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer ? Tel était le grand A de notre deuxième chapitre. Grand B, l'apôtre Pierre et les non-juifs. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 10, à partir du verset 10. Actes 10, 10. Pendant qu'on lui préparait quelque chose à manger, on parle de Pierre, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les quatre coins qui descend et s'abaisse jusqu'à terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit, « En aucun cas, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la deuxième fois, la voix lui parle, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. » Cela se produisit trois fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. juste après cet épisode, arrivent des hommes mandatés par un certain Corneille, un non-juif. Pierre se rend chez lui, et lorsqu'il arrive, Corneille tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre lui dit, le releva et lui dit, « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Et au verset 28, il ajoute, « Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Ainsi, nous venons successivement de voir comment Jésus a accueilli la femme adultère, comment Paul est allé annoncer le salut aux Romains, et enfin comment Pierre, s'adressant à Corneille, a pu dire « Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est impur ou souillé. » Considérons un dernier modèle. Nous n'aurions pas été complets au sujet de l'accueil à réserver aux pécheurs si nous avions passé sous silence la magnifique histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15 verset 21, « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Quel accueil ! Quel accueil ! Avez-vous songé à l'état dans lequel revenait cet homme ? Vraisemblablement rongé par des maladies vénériennes, puant en haillons prématurément vieilli et diminué par toutes sortes d'excès. Pensez-vous que cela a suffi à rebuter le Père ? Pas du tout. Nous venons de lire, le texte nous dit, il fut ému. Il ne voit pas dans ce repenti quelqu'un de dégueulasse ou de répugnant. Non. Tout simplement, il voit son fils. Il reconnaît, il embrasse et il étreint son fils qui était perdu. Nous voici arrivés au quatrième et dernier point de notre réflexion. Et nous allons essayer de nous positionner en vis-à-vis de chacun des modèles précédents. Le premier récit nous invite à être ce que l'apôtre Paul appelait des imitateurs de Jésus-Christ. Premièrement, je dois savoir que la personne que j'ai devant moi se condamne peut-être déjà elle-même. C'est pourquoi, comme Jésus, je dois commencer par la regarder, c'est la faire exister, c'est lui reconnaître une dignité. Deuxièmement, comme Jésus, je dois lui laisser la parole. Troisièmement, comme Jésus, je dois écouter. Je dois recevoir cette parole avec attention, avec intérêt. Comme Jésus, je dois me moquer de l'opinion, passer outre l'image ou la réputation qui est collée à cette personne pour ne voir en elle que ma prochaine ou mon prochain. Le cinquièmement est une question. Si Jésus-Christ n'a ni jugé ni condamné, qui suis-je moi ? Pour le faire à sa place. Certes, il y aura un après obligatoire pour cette personne. Il y aura un « va et ne pêche plus ». Mais c'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher. Et il appartient à Dieu seul de désigner qui il enverra pour se charger de cette mission certes délicate, mais surtout incontournable. Peut-être moi, peut-être pas moi. Dieu seul est souverain. En tout cas, l'appel de Dieu est irrévocable. Quid à présent de nos apôtres Paul et Pierre. Dans son premier culte de l'année 2016, le nôtre de Pierre, le Marquès, il a prêché sur les derniers versets de l'évangile de Matthieu. « Allez, faites des gens de toute nation des disciples. » Il s'agit d'aller au-devant des autres et de ne pas se recroqueviller dans l'entre-soi pour être des inquisiteurs ou des gardiens inflexibles du temple. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 34, Jésus parlant de lui-même dit ceci, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs des taxes et des pécheurs. » J'ai toujours été très, très étonné, je suis encore, de la place que Dieu, dans sa parole, a accordée à Rahab la prostituée. Assez, en tout cas, pour que le propre Fils de ce Dieu incarné s'inscrive dans la droite descendance de cette femme-là. Suis-je un apôtre Paul ? Suis-je un apôtre Pierre qui, obéissant à l'injonction du Seigneur, va au devant de l'autre ? Ou bien suis-je de celles et ceux qui pensent qu'il est des gens insauvables ? Vous savez, c'est très exactement ce que pensait un certain Jonas des habitants de Ninive. Et pourtant, ce sont ceux-là que Dieu avait choisis de sauver. Les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Venons-en enfin à notre dernier modèle, le père du fils prodigue. Il a couru vers ce fils en étant bouleversé d'émotion, les mains ouvertes, les bras tendus, pour lui sauter au cou et l'embrasser. En aucun cas, les mains et les bras chargés de pierres pour le caillasser au premier contact. Et moi, et nous dans tout ça. Vous savez, un des leitmotivs du livre du Deutéronome est « Souviens-toi ». Souviens-toi d'où tu viens, de quel esclavage, de quelle Égypte je t'ai libéré. Et d'une manière ou d'une autre, mes amis, nous ressemblons tous plus ou moins à la femme adultère, aux Romains, à Corneille ou à l'enfant prodigue. Tout nous condamnait lorsque nous nous sommes présentés devant le Seigneur. Mais il ne nous a pas condamnés non plus. Quelques-uns l'eussent-ils fait à sa place, qu'il n'eût pas manqué de dire, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Comment se fait-il alors que je puisse parfois, avec tant d'aisance, me glisser dans l'habit si confortable du pharisien ? Tel ou tel que je condamne pour son ancienne vie dissolue ou son homosexualité est peut-être écrasé par sa propre honte. Et s'il s'agissait d'un fils ou d'une fille prodigue, d'un homme ou d'une femme qui a décidé de faire demi-tour pour entamer le rude chemin de la repentance, d'un homme ou d'une femme qui dans le secret de son cœur invoque le Seigneur pour lui dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mes offuscations pharisiennes, les outrances de mes mots n'impressionneront pas plus le sauveur des hommes que ne le firent jadis les propos calomniateurs vociférés à l'encontre de la femme pécheresse. Et si Christ avait choisi de lui dire « Je ne te condamne pas ». Dans l'épître que Paul écrit à ses corrompus de Romains, il dit au chapitre 9, verset 18, « Dieu a compassion de qui il veut. » Alors, si très secrètement, quelqu'un parmi nous ce matin est dans le mépris de soi, si muet ou muette de honte, il ou elle est écrasé par le poids de ses fautes, et que dans la repentance, il ou elle implore de toutes ses forces le pardon et l'accueil de son Père céleste, le moins que nous puissions faire, c'est de nous montrer accueillants, nous aussi. Cher ami IE, comme l'apôtre Pierre devant Corneille, nous voulons te dire, relève-toi, nous aussi, nous sommes des êtres humains. L'épître aux Romains, toujours cette épître, dit encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et savez-vous pourquoi? Et sais-tu pourquoi? Parce que les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. C'était un sujet difficile. Et pour prolonger notre réflexion, je vous invite à rester assis pour chanter une prière. Nous allons chanter « Je te demande l'amour, Seigneur. Je te demande l'amour. » Chantons.